Le journal présenté par Boris Allier.
Bonjour à tous. Plus qu'une semaine pour convaincre, les partis politiques sont en ordre de bataille avant les élections européennes. Le scrutin, c'est à partir de jeudi et jusqu'à dimanche en fonction des pays. Tour d'horizon dans ce journal en France, en Italie, en Autriche et en Pologne. Aux États-Unis, la campagne pour l'investiture démocrate est bel et bien lancée. Le favori Joe Biden a tenu son premier meeting à 18 mois de la prochaine présidentielle. Nous y serons dans ce journal. À 6 mois de mobilisation et une participation qui s'estompe, les Gilets jaunes était de nouveau dans la rue hier. Et puis, les parents de Vincent Lambert ne lâchent rien. Ils appellent à un rassemblement aujourd'hui pour dénoncer l'arrêt des soins de leur fils. La République En Marche veut rattraper son léger retard dans la course au Parlement européen. Et pour cela, de nombreux ministres et représentants de la liste Renaissance tiennent un long débat aujourd'hui. Très long débat, puisqu'il va durer 12 heures jusqu'à 20 heures sur Facebook Live. 12 heures pour présenter un projet et surtout mobiliser Rosalie Lafarge.
La liste emmenée par Nathalie Loiseau est toujours au coude à coude avec celle du Rassemblement National. Mais en dessous, les dernières enquêtes donnent le RN en tête avec un demi-point, voire 3 points d'avance sur La République En Marche. Évidemment, tout l'enjeu, c'est de décrocher la première place. Marine Le Pen a fait du scrutin un référendum anti-Emmanuel Macron. S'il perd, il devra partir, estime la patronne du RN. Et même si son départ est improbable, une défaite n'arrangerait rien au quotidien du président. Après des semaines de mouvements des Gilets jaunes, des mois de grands débats et quelques annonces à l'issue, une victoire de la liste Renaissance renforcerait la position du chef de l'État sur la scène européenne d'abord, mais aussi sur la scène française. À l'inverse, un succès de Jordan Bardella placerait le Rassemblement National en opposant numéro 1. Et ça, l'Élysée ne veut pas le voir se concrétiser. Le président s'investit lui-même dans la campagne et il aurait demandé, pour ne pas dire imposé, à tous ses ministres d'en faire autant. La menace d'un gros remaniement en cas de défaite plane sur l'équipe d'Édouard Philippe, sommé de s'engager sur le terrain ou, comme aujourd'hui, sur les réseaux sociaux.
Et dans le camp d'en face, les nationalistes aussi se mobilisent. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont écouté les discours des leaders d'extrême droite réunis à Milan hier. Parmi eux, le ministre italien Matteo Salvini et Marine Le Pen. Un absent, en revanche, dans ce rassemblement, la tête de liste du Parti de la Liberté de l'Autriche. Le FPE est empêtré dans un scandale qui a fait exploser la coalition d'extrême droite à Vienne. Le vice-chancelier a démissionné à la suite de soupçons de corruption mise en lumière par une vidéo dévoilée par des médias. Son ex-allié, le chancelier conservateur Sébastien Kurz, annonce des législatives anticipées dans le pays. En Pologne, le président du Conseil européen lui-même se mobilise et appelle ses compatriotes à voter dimanche prochain. Donald Tusk était dans la marche pro-Union européenne à Varsovie hier. Environ 20 000 personnes y ont participé pour s'opposer aux conservateurs au pouvoir. Manifestation suivie par Thomas Giraudeau.
Le long du cortège, plusieurs stands se moquent du parti au pouvoir. Un manifestant porte le masque de Jarosław Kaczyński, le chef du PiS, et jette à la foule des faux billets, allusion aux promesses sociales extrêmement coûteuses qu'il fait depuis le début de la campagne. Allocation familiale, baisse massive des impôts, cela va se retourner contre la Pologne, selon Katarzyna, une professeure de français.
Si ça va continuer, on risque d'être séparé, d'être éliminé, de devenir comme on est en Grèce, écarté pratiquement du niveau économique et tout ce qui se passe en Pologne, toutes les décisions de notre gouvernement actuel, ça nous mène à être exclus de l'Union européenne.
Exclus économiquement, exclus complètement. La coalition européenne fait campagne sur la menace d'un Polexit, la sortie de la Pologne de l'UE si les conservateurs au pouvoir remportent les européennes, puis les législatives de l'automne prochain. Un discours relayé aussi par Donald Tusk, l'ex-premier ministre polonais et président du Conseil européen, est monté à la tribune.
Pourquoi risquer de faire gagner des gens qui ne nous garantissent pas cette position dans l'Union, qui la menacent ? Vous n'avez pas le choix. En tant que père et grand-père, je dois vous dire quelque chose. Vous ne devez pas laisser l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants dans leurs mains. Ce serait impardonnable.
Un discours qui joue sur la peur et qui marche auprès de certains manifestants comme Jarek.
Je suis assez âgé pour me souvenir de la Pologne d'avant l'entrée dans l'Union et je ne veux pas qu'on revienne en arrière, qu'on retourne à cette période grise, sans espoir. Non merci.
Elle se rappelle vaguement de l'avant 2004, la Pologne pas encore dans l'UE. Martha, 22 ans, étudiante, veut mobiliser ses camarades pour faire barrage au PiS.
Je suis contre le Polexit et ces élections européennes sont vraiment hyper importantes. J'ai beaucoup d'amis à la fac de Varsovie qui sont de Vujo, comme moi, loin de la capitale. Et si quelqu'un me dit « je ne peux pas participer à ces élections parce que je suis loin de Vujo », moi, je l'emmène en voiture jusque là-bas pour aller voter.
L'opposition sait que le scrutin se jouera peut-être sur la participation, car les soutien du PiS se déplace davantage aux élections. Pour des européennes, le taux de participation n'a jamais dépassé les 25% en Pologne.
Thomas Giraudeau à Varsovie pour France Culture. Autre élection, autre enjeu, la prochaine présidentielle aux États-Unis, c'est dans 18 mois, mais la campagne pour l'investiture démocrate est bien lancée. Une vingtaine de candidats et un favori pour le moment, Joe Biden, 76 ans, qui a tenu son premier grand meeting à Philadelphie. Sur place, Grégory Phillips.
Un peu comme un boxeur, Joe Biden tombe la veste et monte en courant sur cette scène bâtie au cœur de Philadelphie, juste en face des fameux escaliers du film Rocky et de la statue de Stallone. Face à environ 6000 militants, Biden prononce un discours d'unité. Il appelle à battre Trump, qu'il a rebaptisé le diviseur en chef, et il met en avant les 8 années passées auprès d'Obama. Le président Trump a hérité d'une économie en plein boom grâce à l'administration Obama-Biden, dit-il. Il nous doit ça, encore un héritage, comme à chaque étape de sa vie. En coulisses, un ancien de l'administration Obama, Anthony Blinken, a été le numéro 2 du département d'État. Et durant cette campagne qui débute, il conseillera Joe Biden sur les questions de politique étrangère.
Les gens connaissent très bien l'ancien vice-président et on a le sentiment qu'on peut lui faire confiance. Et dans un temps aussi difficile que le temps actuel, ça c'est un atout très important.
Après 40 minutes d'un discours rassembleur et offensif, Joe Biden nous confie ceci. L'Amérique est de retour avec ses principes et elle donnera à nouveau l'exemple. Cette primaire démocrate est comme un long combat de boxe et ce n'est que le premier round, mais Joe Biden, dans les sondages, mène déjà au point.
9h06 sur France Culture. La mobilisation des Gilets jaunes au plus bas. Près de 15 000 personnes étaient dans les rues hier, soit la plus faible participation. Alors que le mouvement célèbre ses 6 mois d'existence, les Gilets jaunes, eux, revendiquent plus de 40 000 personnes et les Irréductibles ne comptent pas rentrer à la maison comme à Toulouse. Stéphane Iglesis.
Bien sûr, quelques-uns commencent à se demander s'il ne faudrait pas autre chose que les manifestations du samedi après-midi, mais quoi se demandent-ils? La plupart des manifestants restent mobilisés et le débouché politique organisé en mouvement, Antoine, armé de son parapluie jaune, n'en veut pas.
Ce qui faisait la force du mouvement, c'était anti-politique, anti-syndicat. On a commencé à certains à vouloir se politiser et le mouvement a baissé un peu à cause de ça. Parce que beaucoup de gens disent non. Le faisait la force des Gilets jaunes, c'était qu'ils étaient contre les partis, en dehors des partis, en dehors des syndicats. Dès qu'on a voulu commencer à rentrer là-dedans, les gens commencent à considérer qu'on allait être pareil que ceux que certains.
Stop ou encore pour les manifs, pour Johan, c'est encore.
Je sais très bien par contre qu'on ne s'arrêtera pas et que moi je serai là jusqu'au bout. Même si je suis le dernier à venir, je continuerai à venir quand même. Quoi. On peut passer tout le temps qu'on veut dans la rue. Je veux dire, le droit de manifestation c'est un droit constitutionnel mais qui ne sert absolument à rien, puisqu'il n'y a aucune réponse.
Quant aux héros des manifestations toulousaines, Astérix et Obélix costumés, ils sont là, comme disent les manifestants. Francis dit Astérix.
Il y a Macron qui nous a dit le Gaulois réfractaire, donc on lui montre qu'on est des Gaulois réfractaires, tout simplement. Tant qu'on n'aura pas tout ce qu'on veut, on continuera jusqu'au bout.
Dans le cortège, un tract a été distribué à plan à perturber les élections européennes dimanche prochain par une manifestation dans les grandes métropoles.
Et des appels nationaux avaient été lancés à Nancy et Reims. Reims, où la manifestation a été particulièrement violente. Une dizaine de casseurs ont notamment brisé des vitrines de commerce et celles de la radio France Bleu Champagne-Ardenne. C'est un cas emblématique du débat sur la fin de vie. Après avoir épuisé de multiples recours, les parents de Vincent Lambert appellent à un rassemblement cet après-midi devant l'hôpital où leur fils est maintenu dans un état végétatif depuis maintenant 10 ans. L'occasion de protester contre l'arrêt des soins qui pourrait être engagé à partir de demain, ce rassemblement, Sophie Constanzer, ressemble à un dernier va-tout avant une semaine décisive.
En venant devant l'hôpital pour, dit-elle, supplier les médecins de continuer à hydrater et nourrir Vincent, Viviane Lambert occupe le terrain et invite les personnes qui partagent ses convictions à la rejoindre, notamment au sein de l'association Je soutiens Vincent, très active sur les réseaux sociaux. Le rassemblement prévu ce dimanche, médiatique, symbolique et non négligeable quand on sait qu'en juillet 2015, il y a 4 ans, les médecins en charge de Vincent Lambert avaient renoncé à prononcer l'interruption des soins en raison des pressions et des menaces sur le personnel soignant, tandis qu'une 50aine de manifestants applaudissaient sous les fenêtres du CHU de Reims. Un précédent qui avait nourri la bataille judiciaire au grand dam de l'épouse de Vincent Lambert. Mais aujourd'hui, le contexte est tout autre. Les parents de Vincent Lambert ont épuisé tous les recours judiciaires et le Conseil d'État comme la Cour européenne des droits de l'homme ont validé le mois dernier la procédure d'arrêt des soins décidée par le médecin de Vincent Lambert. un arrêt de l'hydratation et de l'alimentation qui doit donc intervenir dans les prochains jours.
Sophie Constanzer de France Bleu à Reims. Les Pyrénées-Atlantiques toujours en vigilance orange, pluie, inondation. Le ciel restera instable ailleurs avec des orages localement. Cela devrait s'arranger en fin de journée, notamment sur le pourtour méditerranéen.